Nations Unies ne se sont saisies du dossier migratoire que tout récemment. C'est ça le message. Il n'y a aucune tradition multilatérale en matière migratoire, historiquement, sauf sur la question des réfugiés. On a eu des conventions sur les réfugiés depuis les années 20, et c'est le seul point. Et la convention de 51, qui est l'actuelle convention sur les réfugiés, résulte de la confluence de deux intérêts multilatéraux importants, tous les réfugiés de l'après-guerre, plus tous les réfugiés de la guerre froide qui commençait en 51. C'est le seul thème sur lequel on a eu vraiment une action multilatérale au plan international sur une petite catégorie de migrants spécifiques, les réfugiés, avec une définition très précise. Pour le reste de la migration, les États ont toujours considéré que c'était une question qui relevait de leur souveraineté et qu'il n'y avait pas de forums multilatéraux qui avaient vocation à s'occuper de cette chose-là. C'était eux qui décidaient. Et donc, quand il y a eu des coopérations, parce qu'il y en a eu, c'était soit bilatéral, sur des frontières très spécifiques, ou parfois plurilatéral, quand il y avait deux ou trois États concernés, ou alors c'était dans le cadre de systèmes régionaux, la libre circulation des personnes en Europe, la libre circulation des personnes dans le Mercosur, par exemple, et on a des projets, ECOWAS, ASEAN, etc. Donc il y a, au plan régional, il y a parfois des discussions, mais en général, sur la question migratoire, les États ont refusé les forums de coopération internationale classiques. Ça a toujours été en dehors des forums classiques de coopération internationale. Par exemple, l'Organisation internationale pour les migrations. Grande organisation internationale, beaucoup de personnel, siège à Genève, 150 pays membres, en dehors des Nations Unies. Elle n'est pas soumise aux trois piliers des Nations Unies, elle n'est pas soumise aux obligations générales des Nations Unies. Le mot « droit de l'homme » n'apparaît pas dans sa constitution, même si elle a fait des gros efforts sur la question des droits de l'homme dans différents points, mais elle ne fait pas partie des Nations Unies, ce qui pose toute une série de problèmes. Elle aimerait bien des fois, elle ne le fait pas. L'Union européenne, toute la politique migratoire de l'Union européenne a été développée dans le cadre de Schengen. Schengen était une organisation internationale en dehors de l'Union européenne, qui n'était pas soumise au Parlement européen, qui n'était pas soumise à la Cour européenne de justice. Et on a développé entre 1990, Convention de Schengen, et 2009, Traité de Lisbonne, l'ensemble des mécanismes dans un petit club privé qui n'était soumis à aucun mécanisme d'imputabilité en vertu, entre autres, des droits de l'homme que protégeait l'Union européenne. Et encore aujourd'hui, la question migratoire au sein de l'Union européenne est très contrôlée de façon très étroite par le Conseil européen, c'est-à-dire par les États. Au plan régional, on a vu apparaître depuis plus de 30 ans des processus consultatifs régionaux, RCPs. Alors déjà, le terme nous avertit, processus consultatif. Alors on sait que ce n'est pas juridique du tout. C'est un processus qui prend le terme juridique, ça, on parle de discussion politique, et c'est consultatif, donc il n'y a pas de décision qui est prise, il ne peut pas y avoir d'imputabilité. Et on a aujourd'hui un certain nombre de processus consultatifs régionaux, 15-16 selon les comptabilités, qui sont plus ou moins efficaces, certains sont un peu en dormance, d'autres peuvent revivre à l'occasion de tel ou tel événement. Il y en a une quinzaine. Il y en a 3 ou 4 en Europe, puis il y a le processus de Budapest, les consultations intergouvernementales. Dans les Amériques, on a le processus de Puebla, le processus de la déclaration de Lima. Au travers de la Méditerranée, on a le dialogue MTM, le dialogue 5 plus 5. En Afrique, on a 3 processus, selon qu'on est en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe ou en Afrique de l'Est. En Asie, on a le processus de Colombo, le dialogue d'Abu Dhabi, le processus de Manille, le processus de Bali, qui ont tous des objectifs différents. Et qui sont des processus. Ce sont des lieux où se rencontrent des hauts fonctionnaires pour discuter de questions migratoires. Échanger des bonnes pratiques, lessons learned, good practices, tous ces buzzwords, mais il n'y aura jamais de déclaration, ou très rarement de déclaration publique. Il n'y a jamais de décision qui est prise. Il y a une relative opacité dans le contenu des discussions, et pourtant c'est là que se prennent des décisions extrêmement importantes. Par exemple, le choix de certains pays de prendre tel ou tel logiciel pour mettre en place des bases de données nominatives sur les migrants qui sont interconnectés avec d'autres bases de données nominatives. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que il y a des choses qui se passent et on n'a aucun moyen de savoir comment la décision s'est prise. Si je vous lis par exemple la définition du processus de Budapest, et the Budapest process is, je le lis en anglais parce que je ne l'ai qu'en anglais, aimed at developing comprehensive and sustainable systems for orderly migration. Its purpose includes exchanging information and experiences on topics such as regular and irregular migration, asylum, visa, border management, trafficking in human beings, smuggling of migrants, readmission and return. Alors là, on a un processus européen qui est manifestement dirigé sur la lutte contre la migration irrégulière. Et on voit que c'est exchanging information and experiences. Aucune décision, aucune imputabilité, aucun mécanisme de contrôle, très peu de publicité. C'est très important que les États discutent entre eux. Et donc, je suis pas en train de critiquer l'existence de ces processus. Ces processus-là sont essentiels pour que les États apprivoisent la question migratoire, puissent en parler entre eux et développent petit à petit les processus communs. Par contre, il y a des décisions qui sont prises dans ces processus qui peuvent affecter très durement les droits et libertés de nombreux individus et il n'y a pas d'imputabilité qui puisse être tirée. Et ça, c'est un problème, moi, je trouve, important. Le secrétariat de beaucoup de ces processus est assuré par l'OIM, qui ne fait pas partie des Nations Unies. Donc on a toujours cette idée que tout ce qui est migration est discuté en dehors des forums habituels de coopération internationale. Il y a des institutions des Nations Unies qui travaillent sur la question migratoire, mais c'est très rarement une priorité. Bon, il y a le HCR, qui s'occupe des réfugiés. Ça, c'est sa priorité, c'est son mandat, mais il prend toujours bien soin de distinguer les réfugiés des migrants pour conserver son mandat, et donc les migrants, ce n'est pas son domaine, et il refuse de s'en occuper de manière à bien distinguer réfugiés et migrants, ce n'est pas une bête idée. Mais en dehors du HCR, les institutions des Nations Unies ne s'occupent pas vraiment des migrations. Alors, on a des institutions qui ont fini par s'occuper des migrations, qui sont par exemple le Comité contre la torture. Je n'ai pas les chiffres très récemment, mais il y a une dizaine d'années, 80% de la jurisprudence du Comité contre la torture s'occupait de migrants dans les pays du Nord global. Pourquoi ? Parce que les pays du Nord global sont les seuls qui ont donné l'autorisation de faire des plaintes individuelles. Et quels sont les problèmes ? Quel est le problème majeur de droits de l'homme que la plupart des pays du Nord global ont ? Parfois les minorités, comme les Roms en Europe de l'Est, mais surtout la question migratoire, la manière dont on traite les migrants. Il y a des rapporteurs spéciaux qui s'occupent des migrants, donc il y a des petites institutions au sein des Nations Unies qui ont ça. Le Conseil des droits de l'homme en parle. Et si on regarde les grandes institutions des Nations Unies, l'OIT a adopté toute une série de conventions et de recommandations sur les travailleurs migrants, mais elles ne sont plus ratifiées. Et ça n'a jamais été une priorité de l'OIT en presque 100 ans d'existence, jusqu'au rapport du directeur général du printemps 2014, à la conférence internationale du travail, qui était sur Fair Migration, la première pointe dans l'histoire de l'organisation. Tout d'un coup, on a l'OIT qui semble relever la tête et semble s'intéresser à ça. C'est-à-dire, semble trouver qu'il y aura un écho chez les États si elle commence à en faire une priorité. Si l'OIT n'en parlait pas, c'est parce que les États n'étaient pas intéressés. Le HCR, on sait, s'occupe des réfugiés. L'UNICEF s'occupe des enfants. Énormément d'enfants de migrants. Mais il y avait une personne qui s'occupait des enfants de migrants au sein de l'UNICEF, à Genève, à New York, en fait. À Genève. Et elle a pris sa retraite. Unifam, il y a énormément de femmes migrantes. Pas grand-chose. L'OMS, il y avait une personne qui s'occupait de la santé des migrants. Il y a 250 millions de migrants sur la planète, ce qui en fait le sixième pays le plus peuplé du monde, si on les mettait tous au même endroit. Il y avait une personne qui s'occupait de la santé des migrants, à proprement parler, qui était fournie par l'OIM. Et quand l'OIM a cessé de financer, la personne est partie. Le PNUD, qui fait énormément de bonnes choses sur la planète, au PNUD, dans la pensée du PNUD, la migration est un échec du développement, au lieu de penser que la migration est une activité normale de l'humanité. Et donc, à partir du moment où on pense à l'inflation comme un échec du développement et qu'on se consacre au développement, ben ça vous donne une idée que, en fait, la migration est une mauvaise chose en soi. Au lieu de se dire que la migration est un élément tout à fait bénéfique du développement, tant pour les pays d'accueil que pour les pays d'origine, et qu'il faut travailler à cette mobilité et à l'assurer. Il y a eu des initiatives historiquement. La Convention internationale sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles, 1990. Elle a 25 ans cette année. Elle a mis 13 ans avant d'entrer en vigueur et d'avoir 20 ratifications. Elle en a 47 aujourd'hui. C'est la moins ratifiée de toutes les conventions droits de l'homme des Nations Unies. Et elle n'a aucune ratification des pays du Nord global. Et quand on parle aux pays du Nord global, il n'y a aucun pays qui veut la ratifier. Pourquoi ? Parce qu'elle reconnaît des droits aux travailleurs migrants en situation irrégulière. Et aucun des États du Nord global, et beaucoup d'États du Sud, ne veulent pas faire le Speech Act de reconnaître des droits aux travailleurs en situation, aux migrants en situation irrégulière, même si ces droits existent de toute façon en vertu de toutes les autres conventions de droits de l'homme. Mais il y a un Speech Act politique à faire. Et il y aurait un coût politique aux prochaines élections à payer si on ratifiait une convention de travail. Beaucoup d'initiatives au cours de l'histoire récente des Nations Unies, peu efficaces. Commission sur la gouvernance globale en 1995, il y a un programme sur la migration qui ne donnera rien. Commission globale sur la migration internationale, un rapport qui a été émasculé par les États et qui ne disait pas grand-chose. Mais Kofi Annan a été brillant. Et là, il faut relever le génie d'un certain nombre de personnes, hein. Il s'est dit, il faut que l'immigration rentre aux Nations Unies, il faut qu'on en parle, c'est un problème mondial, il faut qu'on en parle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a nommé représentant spécial du secrétaire général pour les migrations internationales, Peter Sutherland. Vous ne connaissez pas Peter Sutherland, mais Peter Sutherland a été Attorney General of Ireland, donc ministre, commissaire européen, dernier directeur général du GATT, premier directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Il est président du conseil de Goldman Sachs, il est président du conseil de la London School of Economics, et la prochaine bibliothèque de la London School of Economics s'appellera la Peter Sutherland Library. Ça, c'est quelqu'un que les États, en qui les États ont confiance. Il ne connaissait rien aux migrations, mais les États avaient confiance. Et c'est ça le génie de Kofi Annan, il s'est dit... Les États ne parleront pas à quelqu'un qui vient d'Amnesty International, par exemple. Soyez clairs, les activistes sur la question de migration, ça ne donnera rien, on a essayé ça dans le cas. Prenons quelqu'un en qui les États ont confiance et qui croit que la mobilité est quelque chose d'important et travaillons avec eux. Et Peter Sutherland, je lui donne le crédit, je ne sais pas s'il avait une stratégie au départ, mais je lui donne le crédit. Mettons qu'il avait une stratégie. Prêt à bénéfice du doute, il a réussi à engager les États sur la question migratoire. Il a réussi à les faire venir à des réunions et à discuter de la question migratoire. Il a mis en œuvre toute une série de processus. Il a été extrêmement critiqué pour la manière dont il l'a fait, mais il l'a fait. D'abord, il a réussi à réunir un premier high-level dialogue. Qu'est-ce qu'un high-level dialogue? C'est une réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et c'est la première fois dans l'histoire des Nations Unies qu'on avait une journée consacrée de l'Assemblée générale consacrée aux migrations en 2006. Et tout le monde est venu pour parler migration aux Nations Unies, première fois. Grand succès. Aucune déclaration, aucun plan d'action, mais grand succès, parce que tout le monde est là, ou presque. Et lui a écrit le rapport du secrétaire général pour ça. Il a réussi à impulser le Global Migration Group. Le Global Migration Group, c'est la réunion de 17 agences des Nations Unies et de l'OIM, ne fait pas partie des Nations Unies, pour discuter migration et avoir au moins deux fois par année des réunions sur des thématiques, puisque ça n'est une priorité pour aucune de ces agences des Nations Unies, l'OIM ne fait pas partie des Nations Unies, eh bien, ayons des réunions régulières pour parler de migration et d'amener l'expérience et l'expertise que chacune de ces organisations a en commun, et essayer de prendre des positions communes sur un certain nombre de sujets, et on a vu des productions tout à fait intéressantes. Il a été derrière la création du Global Forum on Migration and Development, GFMD, réunion annuelle qui a eu lieu la semaine dernière à Istanbul, réunion annuelle de beaucoup d'États, plus de 150 États aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il y en avait plus de 150 à Istanbul la semaine dernière, rencontre annuelle en dehors des Nations Unies, c'est government-led, la définition c'est Government-led, informal, non-binding and voluntary process. Plus informel que ça, on meurt. Mais ça existe. Les États viennent et ils se parlent. Au départ, les ONG étaient exclues. Les droits de l'homme n'étaient pas à l'agenda. J'espère que c'est une stratégie de Peter Sutherland. Et ça a marché. Les gens sont venus. Les États sont venus. On discutait. Mexico, Puerto Vallarta, 2010, invite les ONG, met les droits de l'homme sur l'agenda. Et depuis, on n'a pas arrêté d'inviter les ONG et de parler des droits de l'homme. Si c'était une stratégie, ça a marché. Aujourd'hui, le Global Forum on Migration Development est un événement qui dure une semaine. Il y a 700, 800, 900 personnes qui viennent. Et il y a un vrai dialogue sur des tas de questions. J'avance, je vais être sûr de terminer là-dessus. Nouveau high-level dialogue en 2013. Un deuxième high-level dialogue qui n'était pas prévu au départ, bon, 7 ans plus tard. On espérait qu'il y aurait un peu plus qu'au premier. Mais jusqu'à un mois avant le High Level Dialogue, qui a eu lieu en octobre 2013, 4 octobre 2013, on n'avait aucune idée s'il y aurait quoi que ce soit. Et grâce à 2 ou 3 délégations, Philippines, Mexico, entre autres, on a eu une déclaration. Pas un plan d'action, pas encore, faut pas exagérer, là, faut y aller doucement. Mais on a eu une déclaration. Et on a eu une déclaration qui mentionne 6 fois les droits de l'homme. Donc, là, et là, ce sont tous les États de la planète, les États membres de l'Assemblée générale, qui discutent migration pendant une journée, qui aboutissent à une déclaration. Une déclaration, c'est un texte juridique, c'est un engagement politique, au minimum. On peut dire aux États, écoutez, vous avez dit ça, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Là, c'est utile. On sort des process. On est à l'intérieur des Nations Unies, on est dans la méthode Nations Unies, on va avoir des engagements politiques d'abord, et petit à petit juridiques. On espère que le prochain High Level Dialogue, qui n'a pas été décidé, il va probablement venir d'ici 6-7 ans à adopter une déclaration et un plan d'action pour qu'on puisse avoir un mécanisme d'imputabilité. Donc, ce sur quoi j'aimerais conclure ici, c'est de dire que petit à petit, grâce à toute une série de baby steps, les Nations Unies sont en train de prendre la question migratoire au sérieux et il y a une véritable discussion multilatérale qui est en train de s'initier. Mais c'est très, très lent. Et certainement, les droits de l'homme des migrants ne sont pas le centre de la discussion. Quand on voit ce qui se passe au Qatar, quand on voit ce qui se passe dans bien des pays d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie, quand on voit ce qui se passe là, entre autres sur les frontières de l'Europe en ce moment, on se rend compte que les droits de l'homme des migrants ne sont pas la première priorité, qu'il y a bien d'autres priorités. Sécurité, avantages économiques, etc., qui sont là. Mais, au moins, les Nations Unies ont pris la mesure du problème et essayent de se donner les moyens d'un véritable dialogue interétatique. Et ça, je pense que c'est un problème.